rivière à ferraille.
De Disneyland, des mystérieux SMS, un puzzle effrayant, c'est le Bureau des Mystères, spécial histoires qui font peur. Bonsoir et bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et le Bureau des Mystères est en vacances. Donc aujourd'hui, pas de dossier, pas de vrai mystère. On a allumé la cheminée, on a sorti les verres de brandy. Mathias a mis son petit plaid.
Effectivement, on ne peut rien te cacher, Charles. Oui, là, on s'est mis tranquillement au coin du feu. On a envie de se raconter des histoires qui font peur. Alors, au programme, pendant ces vacances du Bureau des Mystères, des histoires effrayantes, et on vous conseille, pour les entendre, de vous mettre dans le noir, d'allumer une petite veilleuse, si vous en avez besoin, et d'enfiler votre casque audio pour partir avec nous vers des histoires bien effrayantes.
Mais avant de commencer, on a un petit message du boss, hein, du patron du label Rivière à Ferraille, Henri Michel. On lui a demandé de bosser un peu, hein, de savoir, c'est comme ça, s'il avait une petite histoire à nous raconter. Et donc on va écouter ce qu'il nous a envoyé.
Salut le bureau, salut Charles, salut Mathias. Alors vous m'avez demandé un creepypasta, moi je vais vous parler, je vais vous raconter mon préféré. Il se passe dans une forêt en pleine nuit. Sous une tempête de neige, une forêt complètement déserte, isolée, loin de toute habitation. Et dans cette forêt, il y a un homme qui marche, épuisé, il s'est perdu, il est en randonnée l'après-midi, et il s'est désorienté, et la tempête est arrivée, et voilà, il est complètement coincé. Il est sur le point de mourir de froid, il est vraiment désespéré, il n'y a plus aucune solution. Et puis, dans cette nuit éclairée par la pleine lune où il aperçoit les arbres, la neige, il croit apercevoir un petit toit de chaumière tout en haut du flanc où il se trouve. Alors il marche à travers la neige, il passe à travers les arbres, les buissons. Et puis effectivement, devant lui, il y a un chalet qui est abandonné. Tout était visiblement, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Et pour lui, c'est le salut, quoi. Alors il essaie de forcer un petit peu la porte et puis... Sans trop de difficultés, elle cède. Alors il referme la porte derrière lui. C'est le noir complet. Il y a la pleine lune qui éclaire un petit peu l'intérieur. Et puis il voit sur une table une lampe à pétrole avec des allumettes. Alors, ça tombe bien. Alors il craque une allumette, il allume sa lampe à pétrole. Puis il regarde autour de lui dans la pièce. Et c'est un chalet tout à fait normal. Il y a même un lit plutôt douillet au fond de la pièce, une table... Avec quelques restes de repas terminés depuis des années. Il n'y a vraiment pas grand-chose, il se promène avec la lanterne. Il y a une chose qui le choque, c'est que partout dans le chalet, partout, il y a des tableaux absolument effrayants. Et ces tableaux, ils ont tous comme point commun de montrer que des portraits de visages difformes, dans des positions où ils ont l'air d'observer, de regarder quand on les regarde, et c'est un peu flippant. Alors il passe chacun de ces portraits en revue comme ça avec la lanterne, il dit ouais, c'est plutôt glauque, hein, mais enfin bon, il est tellement content d'être dans cet endroit au chaud qu'il ne demande pas son reste, et il va dans le lit parce qu'il est vraiment épuisé par sa marche, et puis finalement il éteint la lampe et il s'endort. Et le lendemain matin, il se réveille, et ce qu'il voit lui glace les sangs. Il regarde autour de lui, et en fait, depuis le début, ce qu'il y avait dans la pièce, c'était pas des tableaux, c'était des fenêtres.
Ah bah maintenant que Henri nous a bien mis dans l'ambiance, avec cette histoire dont j'avais déjà entendu parler d'ailleurs, plutôt pas mal... Ça va être à toi, Mathias. T'as une petite histoire à nous proposer.
Oui, je te propose qu'on se mette en jambe avec une petite histoire que j'avais moi-même entendue quand on était adolescent et qui m'avait bien fait flipper à l'époque. Et je l'ai retrouvée sur Internet. En fait, elle circule pas mal sur pas mal de skyblogs, etc. Hein,
dont le tien.
Non, pas le mien, étonnamment, et d'ailleurs on ne cherchera pas mon Skyblog ici. Non, c'est une histoire, donc voilà, c'est la version que j'ai trouvée, je l'ai légèrement modifiée pour qu'elle corresponde exactement à ce que j'avais entendu à l'époque. Et donc c'est parti, je vais vous lire cette histoire que j'ai découverte sur internet, enfin que j'ai redécouverte. Un soir, des parents décident de sortir. Ils laissent leurs deux filles de 12 et 16 ans seules, et alors qu'elles regardent la télévision, il y a un flash d'information qui les met en garde. Une folle très dangereuse, Kudjat, qui se déplace en fauteuil roulant, s'est échappée de l'asile psychiatrique tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument que les habitants des environs prennent leurs précautions. Alors les deux filles décident immédiatement de fermer toutes les fenêtres, de verrouiller la porte, et c'est un petit peu rassuré qu'elles vont se coucher, chacune dans leur chambre. Un quart d'heure après, la petite sœur vient réveiller la grande en lui disant qu'elle a trop peur, qu'elle peut pas dormir. Alors la grande sœur accepte qu'elle vienne dans son lit, et elle se rendort. Mais un quart d'heure plus tard, sa petite sœur la réveille encore et lui dit « Je vais aller sous le lit, comme ça si la folle arrive, elle pourra pas m'attraper. » La grande sœur n'y prête pas vraiment attention et elle se rendort. Mais dans la nuit, un bruit la réveille. Tac, tac, suivi comme d'un frottement. Pour se rassurer, elle se dit que les portes sont bien fermées et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais le bruit continue. Tac, tac. La grande essaie de ne pas paniquer, après tout elles sont à l'étage, donc c'est impossible de monter à l'étage en fauteuil roulant. Alors elle se rassure comme elle peut et elle se rendort. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle descend directement voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine en train de lire le journal, alors comme il répond pas, elle s'approche et elle lui enlève le journal des mains, et elle découvre qu'il est décapité. Elle court dans la salle de bain, elle trouve sa mère dans la baignoire, remplie de son propre sang. Et immédiatement elle pense à sa sœur qui s'était cachée sous le lit, elle retourne dans sa chambre et elle la retrouve éventrée sous le lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant, qui avait été jeté pour briser la vitre, et elle repense au bruit entendu dans la nuit. Tac, tac, c'était le son de la Kudjat qui avançait, en plantant ses couteaux dans le sol. Alors mon cher Charles, ça va ?
C'est va, ça me fait penser à Silent Hill.
On n'est pas à l'aise, hein.
On est pas à l'aise.
Et bien, si ça t'a fait penser à Silent Hill, c'est peut-être pour une raison, puisque Silent Hill est un jeu japonais. Et en fait, ouais. Cette histoire, qui était d'abord américanisée puis francisée, je pense qu'elle s'inspire d'une légende urbaine japonaise qui s'appelle Teke Teke. Et en fait, ça ressemble beaucoup. En fait, là, c'est pas une psychopathe, mais c'est le fantôme d'une jeune étudiante qui serait tombée sur une voie de chemin de fer et qui aurait eu les jambes sectionnées. Et depuis, elle errerait dans la nuit en traînant son corps de Kudjat avec de longs doigts griffus à la recherche d'une victime pour lui couper ses jambes aussi. Hein ? Ça met mal à l'aise. Et il y a encore une histoire dans l'histoire, parce que Teke Teke ressemble énormément à une histoire japonaise très connue que les adolescentes se racontent pour se faire peur. C'est l'histoire de Kashima Reiko. Kashima Reiko, elle aussi, c'est une jeune femme qui aurait été coupée en deux par un train. Et elle erre dans les salles de bain et les toilettes à la recherche de ses jambes. Quand on la croise, elle pose deux questions. Où sont ses jambes et qui nous l'a dit ? Si on donne une seule mauvaise réponse, elle nous tue. Pour info, parce qu'on est sympathique avec nos auditeurs, ses jambes sont censées être là où elle est morte, c'est-à-dire sur la voie rapide Meishin, sur l'île d'Hokkaido, au Japon. Et il faut répondre que c'est Kashima Reiko qui nous l'a dit, quand elle nous demande qui nous a dit cette information. Ensuite, elle peut vous demander si vous connaissez son nom. Et ça, c'est une question piège. Il faut pas donner son nom, Kashima Reiko, il faut donner la traduction de son nom. C'est-à-dire le démon au masque de mort. Et si je vous dis ça, parce que c'est peut-être pour vous prévenir un petit peu, c'est bon à savoir, parce que là, les gens disent que quand on entend son histoire pour la première fois, elle nous apparaît dans le mois qui suit. Alors voilà, c'est cadeau, cher Charles, chers auditeurs.
On est maudits.
Bonne rencontre avec Kashima Reiko, mais bon, vu que vous avez écouté Le Bureau des Mystères, vous saurez comment faire pour ne pas mourir en la rencontrant.
Ah bah, tu vois, là, je le réécouterai pour avoir bien les noms et tout et tout.
Bien écoute, après cette histoire, Charles, je te propose de m'en raconter une, parce que j'aimerais bien entendre, mais aussi des histoires qui font peur.
Ah oui, c'est donnant-donnant. Bah écoute, on va rester sur le thème de l'enfant seul chez lui. Puisque la petite histoire que je vais te raconter, que j'ai intitulée sobrement « Message de l'enfer
», très sobrement,
raconte l'histoire d'un jeune homme qui est resté chez lui un soir de semaine. En fait, il devait aller au restaurant avec ses parents et sa grande sœur, mais il était malade. Il était malade et il n'a pas pu aller au restaurant. Avant de partir, sa mère le rassure et elle lui dit que de toute façon ils seront de retour avant 23h sur dernier délai, donc qu'il n'a pas à s'en faire. Et donc ils partent et ils laissent le petit garçon d'une dizaine d'années tout seul. À 23h05, la famille n'a toujours pas donné de nouvelles, n'est toujours pas rentrée. Alors bon, le petit garçon il est un petit peu inquiet et il essaie d'appeler son père, mais le téléphone ne répond pas. Une minute après qu'il ait passé son appel, à 23h06 exactement, il reçoit un SMS de son père qui dit « S'il te plaît, aide-moi ». Suivi immédiatement d'un second message disant « Oups, trompé de destinataire, hihihihi ».
C'est très rassurant.
Il reçoit, dans la foulée, un message de sa mère, très proche dans le contenu de celui de son père, qui dit « Aide-moi, je t'en prie », suivi là encore d'un second SMS qui dit « Oups, c'était pas pour toi, hihihihi ». Dans la foulée toujours, il reçoit un troisième message, cette fois-ci de sa sœur. Et sa sœur lui dit « Aide-moi, viens nous chercher, je t'en prie ». Et comme vous vous en doutez, c'est à nouveau suivi d'un second message, toujours de sa sœur, qui dit « Désolé, c'était pas pour toi, hihihihi ». Donc le garçon commence à avoir un petit peu peur, et décide, comme le restaurant n'est finalement pas très loin à pied, ils sont allés en voiture, mais le restaurant n'est pas très loin à pied, décide de sortir de sa maison et de marcher en direction du restaurant. Il relie sur le chemin, il marche, il regarde les messages, il voit qu'il a bien reçu le message à 23h05. Donc bon, il relie les messages, il trouve ça un peu bizarre, mais bon, après tout, hein, pourquoi pas, peut-être que ses parents et sa sœur lui préparent une surprise. Sur la route, cependant, il voit de nombreuses voitures de police, une ambulance, et il reconnaît la voiture de ses parents écrasée contre un poteau. Il va voir le policier et dit « Ah, monsieur l'agent, je reconnais cette voiture, c'est la voiture de mes parents. » Le policier le regarde avec un air complètement désolé et lui dit « Écoute petit, voilà, je suis désolé, mais personne n'a survécu. Tout le monde est mort instantanément lors de l'accident. » Alors l'enfant est complètement choqué. Il dit « Mais c'est bizarre, vous connaissez l'heure de l'accident ?» Il a à nouveau les messages sous les yeux, 23h05. Il dit « Vous connaissez l'heure exacte de l'accident ?» Et le policier, il fait « Oui, la caméra de sécurité l'a enregistré. » Et l'accident a eu lieu à 23h, soit 5 minutes avant qu'il ait reçu le premier message.
Des SMS de l'au-delà.
Des SMS de l'au-delà.
Ah, écoute, j'ai bien aimé cette histoire.
Elle est simple, je l'aime bien, elle est un peu... elle est gentillette.
Elle est gentillette, et c'est une très bonne... très bonne mise en jambe pour ce qui va arriver par la suite.
Ouais. D'ailleurs, pour la référence et pour rendre à César ce qui est à César, j'ai entendu pour la première fois cette creepypasta il y a un moment maintenant, mais je l'ai entendu dans un podcast américain qui s'appelle The Last Podcast on the Left.
Ah, très bon podcast.
Et je l'avais très bon podcast, ouais. Et je l'avais, j'en avais quand j'ai entendu dans The Last Podcast on the Left, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà lu sur Internet, mais je serais incapable de retrouver la source. Je l'avais lu comme ça, sans doute quand je voulais me faire peur avec des creepypastas, mais je l'avais réentendu dans The Last Podcast on the Left.
Bah d'ailleurs, à tous nos auditeurs anglophones qui comprennent bien l'anglais, allez écouter Last Podcast on the Left, c'est vachement bien.
Ouais.
Si vous aimez le Bureau des Mystères, vous aimerez en plus, je pense. Donc,
oula,
complètement.
Oui. Enfin, ils sont bien au-dessus de nous, mais...
Allez, c'est parti pour une histoire assez intrigante. Alors, l'histoire que je vais raconter maintenant, en fait, je l'ai cherchée volontairement sur Internet. Parce que, comme tu le sais, Charles, j'aime beaucoup Disneyland. Comme j'ai la chance d'habiter en région parisienne, j'ai pris le pass annuel de Disneyland Paris, donc j'y vais assez régulièrement.
Faut bien qu'il y ait un avantage à habiter en région parisienne.
Et oui, bah, ça fait partie des quelques avantages, effectivement. Et j'avais... en fait, il y a un syndrome Westward qui commence à se développer quand tu vas souvent dans le même parc d'attractions.
S'il y a Dolores, moi je vais à Disney dessus.
On est un petit peu là-dedans, tu deviens un peu comme l'ombre noire, tu veux savoir quels sont les secrets de Disneyland, est-ce qu'il y a des trucs qui sont cachés, est-ce qu'il y a des passages secrets dans le parc, est-ce qu'il y a des légendes.
Est-ce qu'il y a un game dans le game.
Ex- Exactement. Et bah justement, j'ai pu découvrir qu'il y avait un passage, pas secret, mais qui est très peu emprunté, par exemple, dans Disneyland, derrière Discoveryland, enfin, ce genre de choses, je l'ai trouvé sur des blogs, genre Disney secret, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des histoires inquiétantes qui se sont quand même passées à Disneyland? Parce que, quand même, ça c'est là depuis très longtemps, il s'est sûrement passé quelque chose. Et j'ai découvert, non pas une histoire vraie, mais une creepypasta, qui est plutôt effrayante, et que j'avais envie de raconter, ça s'appelle « Une nuit à Disneyland ». Alors j'ai changé les prénoms pour respecter les gens, et je vais te la raconter immédiatement. Alors le témoignage commence comme ça. Il y a 2 ans, mon pote Charles et moi, on avait essayé de rester à Disneyland après l'heure de fermeture. On voulait seulement prendre des photos, rien de bien méchant, on voulait juste pouvoir dire qu'on l'avait fait, vous voyez. On est simplement allé de WC en WC, de recoin en recoin, et on est arrivé à rester là jusqu'à ce qu'ils ferment les portails et que l'équipe de maintenance commence son travail. On a été vraiment surpris de pas se faire prendre. Ça en était presque étrange quand on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité. On est resté là assis un moment, caché derrière une pierre tombale pas loin du manoir hanté, et on a remarqué que c'était bien vrai. Les noms des membres du personnel de Disney étaient bien gravés sur chacune des tombes. On a fini par prendre notre courage à deux mains, et on est parti rôder aux alentours. On croisait parfois un employé ou un garde qui faisait sa ronde, et on essayait de l'esquiver ou de se cacher. Ça a marché, mais seulement pendant une trentaine de minutes. Évidemment, on pouvait pas continuer à faire ça éternellement, et oui, on s'est fait prendre. Je veux dire, ils nous ont félicités pour avoir tenté et réussi, mais l'histoire s'arrête pas là. La première chose qu'on nous a dit quand ils nous ont pris, c'est « Vous allez nous enfermer dans le donjon ?» Et on s'est mis à rigoler. Le garde a rigolé aussi, on s'en sortait pas trop mal. Il nous a dit qu'on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture. Il nous a même félicité d'avoir réussi à rester aussi longtemps dans le parc. Puis il a dit qu'il allait nous emmener vers les cachots du parc pour une interrogation plus poussée. Alors on s'est mis en route vers Main Street. Puis on est descendu dans un ascenseur, tout droit vers l'enfer. Il y avait que 2 boutons dans l'ascenseur. Montée et descente. L'ascenseur s'est arrêté et on a emprunté un couloir immaculé qui embaumait la Javel. Il n'y avait aucune porte, de quelque côté que ce soit. Un couloir entièrement vide et uni. On a marché pendant ce qui nous a semblé une éternité et plus personne ne parlait. Le garde nous a conduit vers un autre corridor. Cette fois-ci, il y avait plusieurs portes aménagées sur le côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté en haut à droite. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital, pour être honnête. Pas tellement une prison. On est arrivé à la salle 1901, il y avait un unique bureau avec 2 chaises, puis ils nous ont laissés seuls ici en fermant la porte derrière eux. On s'est assis sur les chaises comme des gamins obéissants et on a attendu notre tour, mais les gens ne sont jamais revenus. On a patienté 2 heures et on n'a vu personne. On commençait vraiment à s'impatienter, alors on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure. Aucun signe de vie. Rien. On a commencé à appeler, à demander s'il y avait quelqu'un, mais personne n'a répondu à nos appels. On a juste remarqué que les caméras de surveillance qui étaient placées au-dessus de chaque porte, mais il n'y avait pas l'air d'avoir la moindre âme qui vive à cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais comment on aurait pu savoir à ce moment que c'était le mieux à faire? Toutes les portes se ressemblaient. Toutes les portes avaient néanmoins un numéro propre. Mais ils n'étaient pas dans l'ordre, les nombres étaient dispersés, comme si les numéros avaient été attribués au hasard. On était complètement désorientés, on a marché le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait. On s'est dit qu'on devrait juste partir. Charles a dit qu'ils auraient juste dû nous interroger et qu'ils seraient sans doute revenus et qu'ils nous faisaient peut-être une blague et qu'ils nous attendaient dehors en rigolant. Mais les caméras au-dessus des portes avaient ce système de détection de mouvement, elles nous suivaient partout dans le couloir désert. Il y avait une petite lumière rouge en dessous de l'objectif qui clignotait toutes les secondes. On n'entendait pas un bruit, on se sentait observé, et il y avait juste notre respiration pour combler le silence. Et puis c'est arrivé. On a atteint le bout du couloir, et à ce moment précis, les lumières se sont éteintes et on a entendu les autres portes. Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Ces putains de portes se sont ouvertes. Tout aligné le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas, et elles se sont mises à claquer contre le mur derrière elles. On est resté là, abasourdis, pendant 5 bonnes minutes sans savoir quoi faire. Alors on est retourné sur nos pas. On s'est mis à paniquer, on a été pris d'une envie de courir, on s'est pas concerté, c'était comme si à ce moment-là précis, on avait tous su ce qu'on devait faire, ce qu'on avait à faire. C'était l'instinct. Pendant qu'on courait à perdre haleine dans le couloir, on n'a pas pu s'empêcher de regarder à travers les portes ouvertes. Devant chaque ouverture, il y avait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, devant des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les personnages de Disney. C'était dément, on a crié aussi fort que nos poumons le permettaient. Je sais ce qu'on dit, faut pas se retourner quand on court, mais je l'ai fait. Ils quittaient leurs cellules, ils nous suivaient. Ils couraient pas, ils se contentaient de marcher nonchalamment. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant. Presque comme s'ils savaient qu'on avait nulle part où aller. Je jure, et je le jure sur la vie de ma mère, et j'ai entendu se jouer la musique de It's a Small World, l'attraction avec les poupées, à travers un interphone. J'ai peur des poupées, et cette attraction m'a toujours fait flipper. Et maintenant je les voyais, ces petites poupées mécaniques, qui se tenaient dans l'encadrement des portes alors qu'on passait. Les personnages en costume nous suivaient toujours. Les poupées, elles nous pourchassaient pas, Dieu merci. Je crois que j'aurais fait une attaque si je les avais vues nous suivre. Je suis plus sûr de combien de portes on avait dépassées à cet instant, ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune, mais je savais que ce couloir avait une fin et qu'on allait finir par sortir de là. Après une ou deux minutes de course effrénée, on s'est réfugié dans une pièce. Les bruits se sont arrêtés, mais on avait trop peur pour oser sortir. Au bout d'une quinzaine de minutes, Charles a fini par ouvrir la porte lentement, avec beaucoup de précautions. Il n'y avait pas un bruit. Plus rien semblait nous suivre, mais on voulait prendre aucun risque, alors on s'est mis à courir. On est entré dans le corridor d'avant, et les portes avaient disparu. Je n'ai jamais compris où elles étaient passées, mais j'étais content de plus les voir. On a couru jusqu'à l'ascenseur, on a pressé le bouton monter, et on s'est regardé, encore choqué par ce qui venait de se passer. Aucun de nous deux parlait. On a juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre, on est retourné à Main Street, on a couru vers le parking. La voiture n'était plus là, alors on a continué à pied sur la route, jusqu'à ce qu'on ait assez de réseau pour commander un Uber. Le Uber nous a reconduit à l'hôtel où on dormait, on a payé la course avec la carte bleue, on est allé se coucher. Et le lendemain, on a reçu un appel au bureau d'accueil de l'hôtel, alors on s'est présenté en bas. Il y avait des officiers de police qui nous attendaient. Ils nous ont dit que notre voiture avait été mise à la fourrière, on a dû payer l'amende. Ils nous ont rien demandé de plus, et on s'était pas embêté à leur dire ce qui nous était arrivé hier. On a juste payé l'amende, et on est rentré chez nous. Aujourd'hui, on fait comme si rien ne s'était passé. Mais j'oublierai jamais ça. Je suis pas revenu à Disneyland depuis.
Meilleure campagne de sécurité ever. Genre, t'as lu ça, et ben plus jamais. Je suis sûr que c'est un problème en plus. Le nombre de jeunes qu'il y a qui essaient de rester après les horaires de fermeture du parc, même moi, ça m'a traversé l'esprit à peu près pour tout. C'est-à-dire, pour le je crois que un des rêves de mon père, c'est de faire ça, mais au musée Grévin, parce que ça doit être hyper flippant d'avoir les statues.
C'est trop horrible.
Mais dans les musées, dans les parcs d'attractions, donc il doit y avoir des gens qui doivent le faire tout le temps. Et ça va être un gros problème de sécu pour eux, parce qu'il y a plein de recoins. Enfin, littéralement, si tu te caches à Disney, t'es pas retrouvé, quoi. C'est le grand, t'as plein de recoins, t'as plein de
c'est
trucs.
Ça, et tu veux surtout pas tomber sur un dingo en pleine nuit, quoi.
Ah ouais, non, c'est clair, si tu tombes sur des personnages déguisés, ça doit être tellement flippant.
Ah non, mais là, c'est ce qui m'a fait trop flipper dans cette histoire, c'est que je la lisais, tu sais, je la lisais tranquillou sur mon smartphone, et je vois le truc, les portes s'ouvrent, et là, il y a des Mickey, des dingos et tout derrière les portes. J'étais, oh putain, je suis mal à l'aise. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je la raconte ici. En plus, elle n'est pas hyper hyper connue. Alors je l'ai simplifiée hein, parce qu'elle est très longue. Si vous voulez l'écouter, enfin la lire en entier, ça s'appelle Disney's Catacombs. Donc j'ai changé quelques trucs. Normalement, ça se passe à Disney, États-Unis.
Oui, n'y voyez aucun rapprochement avec,
ah, voilà,
avec Charles.
Et ce n'est pas Charles. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont 5, c'est un groupe de 5 personnes, ouais, dans l'histoire originale. Mmh. Mais là, comme on était tous les deux, je me disais qu'on allait là.
C'est une invitation, c'est-à-dire que tu veux qu'on vive ça ensemble, tu veux qu'on se fasse enfermer à Disneyland.
Écoute, la prochaine fois qu'on se retrouve tous les deux à Disneyland, je pense qu'on restera après la fermeture, et puis, et puis on verra s'il y a des Mickey et des dingos qui nous poursuivent en marchant nonchalamment.
Oh là là, t'imagines, des Jafar.
Oh, mon dieu, des Elsa de la Reine des Neiges.
Ah ouais, bah c'est un truc que tu peux faire, ça, quand t'arrives à t'échapper.
Nous courrait.
Tu chantes libéré, délivré.
Elle marcherait derrière nous en faisant libéré, délivré, délivré. Ça fait du bien de se détendre un peu après cette histoire qui moi, m'avait mis mal. J'espère qu'elle t'a mis mal aussi, quelque part.
Ouais, j'ai bien. C'est très visuel. Beaucoup de descriptions et je me suis bien imaginé dans le couloir blanc. Très propre, avec que des managers de Disney et des salles dans lesquelles tu sais pas trop ce qu'il
y a. Bah écoute, maintenant je pense que c'est à toi de me faire peur, et de faire peur aux auditeurs et de raconter une histoire.
Alors maintenant, il va s'agir de voyager un petit peu, puisque pour cette histoire, je vais vous emmener en Corée du Sud, où on ne rigole pas avec l'éducation. Parce que les étudiants sont très assidus en cours, visiblement. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ils passent beaucoup de temps à la bibliothèque. Ils travaillent très dur, et d'ailleurs, c'est devenu un problème de santé publique en Corée, puisque étudiants et adolescents manquent de sommeil, et des fois s'écroulent de fatigue en cours, ce qui est bête quand on veut être assidu à un cours, quand même. Si bien que depuis quelques années, pour endiguer le problème, les directions des écoles ont pris le parti de fermer les salles de cours et les bibliothèques pour que les étudiants n'y restent pas toute la nuit. Ils ferment normalement aux alentours de 22h. Ce qui est l'inverse en France, c'est-à-dire qu'on vient d'accepter l'ouverture des bibliothèques jusqu'à 22h. Et donc Sun Yi, est une jeune étudiante. Et un jour, alors qu'elle est en période d'examen, elle décide de passer la soirée et la nuit avec ses camarades dans une bibliothèque pour réviser. La bibliothèque était bondée quand le groupe est arrivé, mais elle se vide peu à peu. Et à 22h, il ne reste plus que le groupe d'amis de Sun-Hee. L'étudiante va aux toilettes, alors que 22h vient, grosso modo, à peine de sonner. Elle longe un couloir, alors entre la bibliothèque et les toilettes, il y a un couloir qui est extrêmement mal éclairé, qui est très sombre, à cause de quelques néons défectueux. Et donc dans la bibliothèque, ses amis continuent à travailler, mais assez rapidement ils sont attirés par d'étranges bruits près des grandes fenêtres de la bibliothèque. Il faut s'imaginer une grande bibliothèque avec du bois, des étagères en bois, des grandes fenêtres à l'ancienne. Et donc à une de ces grandes fenêtres, il y a un bruit, il y a un tambourinement qui se fait entendre. Ils s'approchent tous et ils regardent par la fenêtre. Et ce qu'ils vont voir va les effrayer. Il y a une dame, une grande dame, vêtue en blanc, mais avec le teint, la peau extrêmement pâle, des bras rachitiques, et surtout, deux grands trous noirs à la place des yeux, qui les regardaient fixement. Elle n'a pas d'yeux, elle est vide à cet endroit-là. Mais c'est tellement noir que c'est impossible de voir ce qu'il y a à la place. La femme, d'un geste, elle colle son visage sans yeux contre la vitre et elle commence à hurler. Alors les étudiants s'éloignent de la fenêtre, hein, il n'y a plus que le groupe d'amis de Sun-Hee. Ils s'éloignent de la fenêtre et ils ne savent pas quoi faire. Mais avant même qu'ils prennent une décision, la femme, ou plutôt ce qui ressemble à une femme, casse la vitre et rentre dans la bibliothèque. Sun-Hee, de son côté, est toujours aux toilettes. Elle se lave les mains et elle ne sait rien de ce qui se passe dans la salle à côté. Elle n'entend pas ce qui pourrait potentiellement être des cris, des hurlements, des coups. Mais soudain, alors qu'elle est en train de se sécher les mains, les WC sont plongés dans le noir. Sun-Hee connaît à peu près bien les toilettes de cette bibliothèque, donc elle arrive à se repérer, elle met ses mains devant et elle arrive à peu près à se repérer. Elle galère un petit peu, elle tâte plusieurs fois l'interrupteur pour voir si, en éteignant, en rallumant, il n'y a pas quelque chose qui se passe, mais non, rien n'y fait. Elle est dans le noir. Elle parvient à trouver la poignée de la porte, elle ouvre la porte, et elle se retrouve à nouveau dans ce grand couloir sombre qui sépare les toilettes de la bibliothèque, sauf que là, le grand couloir un peu sombre est carrément tout noir. Elle ne voit rien du tout. Cependant, le couloir est tout droit, et elle continue à marcher, et elle se retrouve à peu près au milieu de la bibliothèque, quand tout d'un coup, les lumières reviennent. Donc elle se rend compte qu'elle est au milieu de la bibliothèque, et là, ce qu'elle voit la terrifie. Tous ses amis sont morts. Les corps de ses amis sont dans des positions impossibles. Les membres sont tordus, à l'envers. Sur les visages de ses amis, il y a des grimaces d'horreur. Ils ont le visage figé. Certains étaient à plusieurs mètres au-dessus du sol, sur les étagères en bois, à la place des livres. Ils ont les corps tordus. Et là, Sun-Hee, elle est tellement choquée qu'elle n'arrive même pas à crier. La bibliothèque est plongée dans un silence profond, quand derrière elle, elle entend un bruit de craquement. Par réflexe, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, mais par réflexe, elle s'allonge par terre, entre les corps de ses amis, et elle fait la morte. Elle ouvre un œil, et là elle voit la femme. La même femme que ses amis ont vue par la fenêtre, quelques minutes plus tôt. Et la femme, elle rentre à nouveau dans la salle de la bibliothèque, avec sa robe blanche, son corps très maigre, et les trous à la place des yeux. Et elle se déplace avec un râle comme ça. Par curiosité, Sun-Hee, elle continue à la regarder un petit peu, à avoir un œil entrouvert. Le monstre se retourne et Sun-Hee ferme les yeux avant d'avoir pu voir quoi que ce soit. Et elle reste à nouveau la plus immobile possible. Le monstre continue son chemin et commence à dire à voix basse en s'approchant des corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et elle inspecte chacun des corps présents dans la pièce. Sun-hee garde les yeux fermés, mais elle veut quand même voir si le monstre s'approche d'elle. Elle entend de temps en temps 1, 2, 1, 2. Mais malheureusement pour elle, le monstre se rapproche inexorablement. En examinant les corps, corps après corps, il arrive derrière l'étudiante, qui se met du coup à respirer le plus faiblement possible. Et là, Sun-hee, elle va attendre de longues minutes. Elle prie, elle se dit « Peut-être que si j'attends suffisamment longtemps, le monstre va partir. Donc je vais respirer doucement le plus longtemps possible, je vais fermer les yeux le plus longtemps possible. » Et à l'intérieur, elle prie, elle se dit « Pourvu que le monstre s'en aille. » La bibliothèque est complètement silencieuse, il n'y a pas un bruit, même dehors, il n'y a pas un bruit. Au bout de très très longues minutes, elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien depuis un moment. Elle décide, elle a la tête légèrement penchée, elle décide d'ouvrir lentement un œil. Mais à peine elle ouvre l'œil qu'elle entend près de son oreille 1, 2, 1, 2.
On n'est pas bien. J'ai eu littéralement les poils qui se sont dressés sur
C'est pas vrai.
Si, si.
Oh là là, mais c'est le froid. C'est parce que t'as enlevé ton plaid.
C'est peut-être parce que j'ai froid. Je vais remettre le plaid, effectivement. Et je vais me resservir un petit verre. Ça ira mieux pour supporter cette histoire.
Ah là là, c'est toujours malaisant, hein, les monstres.
Mais où as-tu trouvé cette histoire? Elle est vachement bien.
Elle est vachement bien, je l'ai trouvée sur un site internet, puisque c'est le but, en même temps tu me diras des creepypasta.
Exactement.
Mais je n'ai plus le site internet sous les yeux. Mais c'est un site qui référençait des creepypasta et qui souvent en fait en faisait la traduction.
D'accord.
Et ce qui est plutôt pas mal parce que...
Ah mais c'est peut-être creepypasta.wikia.fr.
Alors c'était pas celui-là.
Qui est un site de creepypasta très connu en France. Hein.
Ouais.
D'ailleurs la traduction de Disney, de l'histoire de Disney qu'on raconte ce soir, vient de creepypasta.wikia.fr, qui est vraiment une excellente source pour avoir en version française plein de creepypasta qui viennent d'un peu partout dans le monde en fait.
Ouais c'est ça, ils font un boulot de traduction qui est assez sympa et qui permet aux non-anglophones des fois d'avoir accès à ces histoires-là. Mais donc voilà, je me suis dit c'est pareil, c'est encore, j'imagine tout sous forme de campagne publicitaire, tu vois, pour justifier la fermeture des bibliothèques un peu plus tôt.
Attention.
Tu as ce petit film sur YouTube.
Mais c'est marrant que tu parles de film parce que ça fait vraiment scénar de court-métrage d'horreur, quoi.
Ouais, carrément, ouais.
Genre, tu vois, le y avait un concours en moment film d'horreur en une minute, qui avait d'ailleurs donné l'excellent film Dans le noir.
Oui.
Le long métrage n'est pas excellent, mais le court métrage était très bon. Et justement, c'est exactement le genre de truc que tu verrais en court métrage d'horreur, très court comme ça. Mm-hmm. Parce que là, on l'a raconté, donc ça met un peu plus de temps, mais quand tu le racontes avec des images en une minute. C'est
ouais,
le truc
c'est ça,
qui te terrifie. Donc ouais, non, ça... Faudra qu'on se renseigne d'ailleurs. Peut-être que sur Internet, quelqu'un a eu la bonne idée de le faire. En tout cas,
ouais,
si ça n'a pas été
adapté,
fait,
ouais.
Il faudrait le faire. Bon, on se fait quelques petites histoires tranquillou pour continuer.
Allez, on continue.
Alors, je vais faire une histoire qui, encore une fois, m'avait terrifié quand j'étais ado.
Mais parce que t'étais facilement terrifié.
Ouais. Alors moi, quand j'étais adolescent, je ne regardais pas du tout de films d'horreur. Ça me faisait vraiment.
Je te balance.
Extrêmement peur. Je me suis mis au film d'horreur sur le tard. Et d'ailleurs, notre émission Inspirée de Ferrel, notre autre émission Inspirée de Ferrel, qui sur les films d'horreur, on n'aurait jamais pu la faire quand on était ado, très clairement. Parce que j'avais vraiment une peur panique, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à regarder Scream, ce genre de truc, quoi. Là, aujourd'hui, il y a des films comme Terreur sur la ligne, je les regarde, je suis plié en deux. Terreur sur la ligne, qui est inspiré d'une légende urbaine. Et là, à l'époque, c'était juste pas possible. Et donc là, c'était même encore avant, je crois que je devais avoir une douzaine d'années quand j'ai entendu ça, et je l'ai littéralement entendu autour d'un feu de camp. C'était le genre de truc, on était comme ça en train de camper, le petit feu et les petites histoires qui font peur à côté de la tente. Et en fait, elle est vachement connue. Et moi, j'imagine que peut-être des gens l'ont entendu, c'est l'histoire du puzzle. Alors, je vais la raconter, parce que j'en ai trouvé une très bonne version qui correspondait à celle que j'avais entendue. Ça, c'est le propre des très bonnes légendes urbaines, je trouve, c'est qu'elles ne modifient pas, elles ne changent pas trop dans leur forme. Il n'y a pas beaucoup de détails qui s'ajoutent, ça reste souvent la même. Donc, j'y vais tout de suite. C'est une nuit sombre et pluvieuse. Une vieille dame est dans son salon, assise à la table à manger, en train de faire un puzzle. Elle commence par les côtés, puis elle commence à recomposer l'image petit à petit, morceau par morceau. Elle est soudainement prise d'un sentiment de malaise. Sur le puzzle, elle a l'impression de reconnaître sa propre maison. Mais elle continue de reconstituer la photo, pièce par pièce, et son sang se glace de plus en plus. Alors qu'elle saisit la dernière pièce, elle réalise que c'est elle sur ce puzzle, et que derrière la fenêtre, juste derrière elle, se dessine le visage dément d'un homme avec un grand couteau. La dernière chose qu'elle entendit fut le son du verre qui se brise.
C'est ce qui me fait le plus peur dans cette histoire.
Ouais.
C'est que tu dis puzzle au lieu de puzzle.
Oui, alors ma prononciation, effectivement.
Ah non, mais les deux sont valables, je suis sûr.
Bah écoute, je ne sais pas, je l'ai toujours prononcé français, comme ouais. Ça, mais c'est.
Ouais. Ça me fait rire, les gens qui disent puzzle.
C'est pas peut-être une différence.
C'est comme
régionale.
Yaourt et yogourt.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que tu savais d'où venait cette légende urbaine? Enfin, je ne sais pas d'où elle vient à l'origine, mais comment elle a été vraiment popularisée pour les gens de notre génération, c'est-à-dire que les gens qui ont 20-30 ans à peu près?
Pas du tout, je l'ai entendu aussi en plus, je pense, à peu près au même moment que toi, mais j'ai aucune idée de comment elle a été popularisée.
En fait, en cherchant la source de cette histoire, donc il n'y en a pas vraiment, hein, c'est vraiment du folklore, c'est l'histoire orale, beaucoup de gens se la racontent, mais une des occurrences récentes où elle a été racontée, c'est en fait dans Le Cercle des Poètes Disparus, le film.
Ah, oui.
En fait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une scène où il se raconte justement des histoires qui font peur dans la grotte, et,
oui, évidemment, oui.
Et il raconte cette histoire. Et donc là, l'histoire que je vous ai racontée, c'est j'ai traduit littéralement ce que raconte le monsieur dans la grotte. Je vous ai fait une petite traduction française du film.
C'est lequel qui raconte déjà?
Alors, je ne me souviens plus exactement lequel de la bande le raconte, mais...
C'est pas Ethan Hawke parce qu'il joue le timide.
Non, oui, ça m'étonnerait qu'il raconte ça. Mais en tout cas, voilà qui mérite de revisionner le Cercle des Poètes Disparus, qui est un excellent film.
Il n'y avait même pas besoin de ça pour mériter un revisionnage, enfin. Écoute... on va rester dans le mobilier et dans le vieux mobilier antique avec des vieilles personnes.
Oh.
Puisque l'histoire que je vais te raconter, ouais, c'est ça. On est une thématique vieux. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Léo et de son vieux canapé en cuir. Parce qu'on a tous un ou plusieurs objets en particulier qui nous rappellent notre enfance, qui sont parfois liés à des bons ou des mauvais souvenirs. Et ben dans le cas de Léo, c'est un mauvais souvenir et c'est un canapé en cuir. C'est pas seulement pour la rime. Donc celui-ci, Léo, se trouvait dans sa maison. Et le canapé se trouvait dans le salon. C'est un meuble assez imposant, c'est un bon gros canapé en cuir très, très confortable qui trônait au milieu du salon. Il était assez usé parce que ses parents l'avaient acheté dans un débarras. Et Léo se souvient que lorsqu'il avait 5 ans, un jour qu'il jouait seul dans la maison... Il avait remarqué quelque chose d'étrange, il y avait un petit sac en papier qui était posé, froissé à côté du canapé juste devant, et sur ce sac, il y avait un logo assez caractéristique qui était apposé dessus. Et au moment où l'enfant allait ramasser le sac, il se rend compte qu'il y a une main hideuse qui tient le sac par la base et qui dépassait du canapé. Un petit bras blanc qui sortait du canapé et une main qui tenait le sac. Alors évidemment, il est terrorisé, il raconte ça à sa mère, qui ne le croit pas, qui dit qu'il a trop d'imagination. Et la main rattrape comme ça le sac, le retire doucement, et plus de nouvelles. Une fois adulte, il demande à sa mère ce qui a pu arriver au canapé, parce qu'il se souvient qu'un beau matin, le canapé avait été remplacé par un œuf, et l'histoire avait été oubliée. Et donc, comme je dis, une fois adulte, il demande à sa mère ce qui est arrivé au canapé et elle lui dit de plus parler de ce canapé, qu'il a été jeté aux ordures. Alors Léo insiste un peu et sa mère lui répond qu'elle ne l'avait pas dit à l'époque pour ne pas l'effrayer. Mais que quelques jours plus tard, quelques jours après ce qui était arrivé à Léo, alors qu'il jouait avec sa mère à cache-cache dans la maison, elle avait entendu un bruit sous le canapé et elle pensait que c'était la cachette de Léo. Sauf qu'à la place, quand elle s'est mise à genoux et qu'elle a baissé la tête pour regarder ce qu'il y avait sous le canapé, elle avait vu une vieille dame avec un châle noir sur la tête. Et sa peau était grise et ridée, et son visage était tordu et ne s'arrêtait pas de sourire. La vieille dame avait un petit rire d'enfant et tenait un bracelet dans sa main. La mère lui dit, à ce moment-là, j'ai hurlé, et d'ailleurs t'es sorti de ta cachette, et je t'avais emmené dehors, et une fois que ton père était rentré, il ne me croyait pas, mais on a quand même décidé de jeter le canapé. Quelques jours après que sa mère lui ait raconté cette histoire, Léo va dans un magasin d'antiquités, et en se baladant dans la section mobilier, il voit, sur un plateau, le même sac en papier avec le même logo qu'il avait vu dans son enfance, et pour lui, il n'y a pas de doute, il voit exactement le même sac avec le même logo. Il s'approche du plateau, il est un peu terrorisé, il revoit ses terreurs d'enfant, il les ressent à nouveau. Il prend le sac cette fois, et comme il a les jambes qui commencent à le lâcher un petit peu, il a vraiment peur, il décide de s'asseoir sur le canapé qui est à côté du plateau sur lequel était posé le sac. Il est un peu abasourdi, il a le sac sur les genoux. Et au moment où il déplie lentement pour voir le contenu du sac, il entend quelque chose se glisser le long de sa cheville et un petit rire d'enfant à nouveau.
Mais on ne saura jamais ce qu'il y avait dans ce sac.
Non, on ne saura pas. Alors, il y a différentes versions. Sur internet, cette creepypasta m'a été donnée sous différentes formes, dont une forme que je ne comprenais pas. Pourtant, c'était en français. Hein. Mais il y a une version de l'histoire, enfin, il y a différentes petites versions, évidemment, de l'histoire, avec quelques petits trucs qui diffèrent, mais pas grand-chose, où il trouve le sac, et dans le sac, il y a des lames de rasoir. Et l'histoire s'arrête là. C'est la chute, c'est qu'il y a des lames de rasoir. Alors, si t'as une interprétation comme ça à chaud, je suis preneur.
Écoute, non, c'est une... Alors là, comme ça, je ne sais pas, peut-être pour tuer des gens, mais à part ça, je vois pas de...
Bah ouais, ou pour se scarifier, disons, je ne sais pas, en tout cas. Comme ça, dans l'idée, je comprenais pas trop. Donc voilà, il y a plusieurs petites versions de cette creepypasta canapé en cuir et confort et tout. Et tout.
Bah écoute, ça me conforte dans l'idée que je n'achèterai pas de canapé en cuir, et surtout pas dans un vieux débarras.
Oh ben, pourtant c'est très beau, hein.
Oui, mais ça colle en été.
C'est parce que tu transpires.
Oh, on se calme tout de suite. Ah, quoi qu'un bon petit canapé de Chesterfield, c'est toujours sympa.
Ah là là, c'est tellement... Ouais, ouais.
On va en faire installer au bureau autour de la cheminée. Tiens, on va se prendre des gros fauteuils Chesterfield en cuir à oreilles, ça va être sympa. Je vais passer ça en note de frais chez Rivière à Ferraille. Bon, on part sur une autre histoire.
Allez, on y va.
L'histoire que je raconte maintenant n'est pas vraiment une histoire, en fait. C'est plus un jeu. Ça s'appelle le jeu de minuit. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, du jeu de minuit.
Le jeu de minuit... Alors en ce moment, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle Persona 4 sur ma PlayStation Vita. Et y a un petit truc, je suis dans les premières heures de jeu. Si tu te mets devant ta télé à minuit et que t'appuies sur une certaine chaîne, tu vois... une personne ou un truc comme ça. Est-ce que c'est pas ça?
Non, là c'est
pas devant une télé.
C'est différent. Alors on est toujours dans de la creepypasta complètement. Hein. Donc tout ce que ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais raconter, mais quand même si vous y croyez un tout petit peu, ça peut faire flipper. En gros, c'est un jeu un petit peu à la Bloody Mary pour se faire peur, si tu veux. Le jeu de minuit. On le présente, la plupart du temps, quand tu lis des articles de creepypasta sur le jeu de minuit, on le présente comme un vieux rituel païen qui aurait été autrefois utilisé comme punition. En fait, c'est fait pour faire peur, à la base, mais il y a une chance de mourir en participant au jeu de minuit. C'est pourquoi la première règle du jeu de minuit, c'est ne jouez pas au jeu de minuit.
Ah, c'est exact. D'accord, c'est comme le Fight Club.
Exactement.
La première règle, c'est on ne parle pas du Fight Club.
Écoute, j'ai les règles devant les yeux. Au tout début, il y a marqué, il est fortement recommandé de ouvrir les caps lock, ne jamais jouer au jeu de minuit. Fermez les caps lock. Donc c'est voilà, c'est marqué en majuscule. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous donne quand même les instructions du jeu. Le jeu doit impérativement commencer à minuit, sinon ça fonctionnera pas. Et pour le faire, il vous faudra une bougie, une goutte de votre propre sang, un bout de papier, des allumettes ou un briquet, comme vous voulez, et du sel. Il faut y jouer dans une maison ou un appartement, enfin, l'important c'est qu'il y ait une porte d'entrée en bois. Voilà, jusque-là, normalement, à peu près tout le monde a ce genre de choses.
Ouais.
Ensuite, il faut écrire son nom en entier sur un bout de papier, y mettre une goutte de sang, bien étaler sa goutte de sang, et ensuite éteindre toutes les lumières de la maison. Ensuite, on va devant la porte d'entrée, on place le papier devant la porte, et là, on prend la bougie, on l'allume, on la place sur le papier, et on frappe 22 fois à la porte. Et ce qui est important, c'est que le dernier coup de ces 22 coups frappe à minuit pile, quand il y a le 12e coup.
Ah d'accord, ok. Ah donc il faut avoir une montre, et l'idéal c'est à 30 secondes de minuit, tu commences à taper.
Voilà.
Et d'accord. Et ça va faire chier les voisins.
Un petit peu, mais voilà, c'est pour se montrer qu'on a du courage, comme tu vas le voir par la suite. Une fois qu'on a fait ces 22 coups, on ouvre la porte, on souffle la bougie, et on referme la porte. Là, on est tout seul dans son appartement, où il fait noir, avec une bougie éteinte. Et on peut se dire, bravo, parce qu'on vient de faire entrer chez nous l'homme de minuit.
Ah, toujours à l'heure.
Et voilà. Il faut rallumer immédiatement la bougie, et c'est à partir du moment où on rallume la bougie que commence le jeu. Maintenant, il va falloir traverser la maison dans le noir, la bougie à la main, en évitant l'homme de minuit à tout prix, jusqu'à 3h33 du matin précisément. Si la bougie s'éteint à un moment, c'est que l'homme de minuit n'est pas loin.
Wow, alors il faut éviter de prendre un chauffe-plat déjà. Il faut prendre une vraie grande bougie.
Une vraie bougie, hein, ouais, c'est important. Un chandelier si vous avez, je sais pas. Voilà, il faut rallumer la bougie très vite si votre bougie s'éteint, en moins de 10 secondes. Et si vous n'y arrivez pas en moins de 10 secondes, c'est pour ça que je vous conseille vivement de prendre un briquet et pas des allumettes, il faut former immédiatement un cercle autour de vous avec le sel. C'est ce qui va vous protéger. Si vous avez raté ces deux étapes-là, l'homme de minuit va vous attraper et vous faire avoir une hallucination qui est basée sur votre plus grande peur. Et cette hallucination durera jusqu'à 3h33. Donc si tu te fais attraper à minuit, tu as l'hallucination de la chose qui te fait le plus peur au monde pendant 3h30. Mais si tu as réussi à rallumer ta bougie, parce que tu es doué, tu peux continuer. Et si tu as réussi à tracer ton cercle de sel, tu peux rester dedans jusqu'à 3h33 et il ne t'attrapera pas. Donc ça, c'est plutôt tant mieux. Mais il faut continuer.
Ah, donc, dans tous les cas, si tu fais ton cercle de sel, déjà t'es immunisé.
Oui, non, c'est ça qui te protège. Parce que
ok, donc t'as même pas besoin d'allumer si tu fais. Il faut que ce soit épais, il faut que ce soit du sel fin, du sel de Guérande. Il y a un truc plus efficace que l'autre.
Écoute, ce n'est pas précisé, mais
du gros sel peut-être.
Je pense que du sel globalement, n'importe quel sel peut faire l'affaire. Okay. Voilà.
D'accord.
Moi, je vous recommande par fierté française un petit peu de sel de Guérande, mais bon, oui, ne mettez pas de la fleur de sel, c'est trop cher. Enfin voilà, gardez-le pour la cuisine. Donc l'idée quand même, c'est d'essayer d'échapper à l'homme de minuit. Donc c'est pas de tricher, de faire directement son cercle et de rester dedans jusqu'à 3h33. Sinon, il y a pas vraiment d'intérêt au jeu.
Ouais, bah ouais.
D'ailleurs, il y a plusieurs règles. Ils disent d'ailleurs à l'attention des petits malins, rester au même endroit durant tout le jeu n'est pas conseillé. C'est de se planquer, par exemple, parce que l'homme de minuit finira par vous trouver. C'est pourquoi il est extrêmement recommandé de marcher constamment pendant le jeu, et de ne tracer son cercle de sel qu'en ultime recours. Les dernières règles sont de ne jamais allumer les lumières durant le jeu de minuit. De ne jamais utiliser de lampe torche durant le jeu de minuit. De ne jamais aller au lit et dormir pendant le jeu de minuit. De ne jamais utiliser le sang de quelqu'un d'autre sur un papier avec votre nom. De ne jamais utiliser un briquet à la place de la bougie, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit une bougie allumée. Et surtout, surtout, ne jamais provoquer l'homme de minuit en aucune manière.
Comment on fait pour provoquer l'homme de minuit?
Je pense que c'est essayer d'aller à sa rencontre et lui dire qu'on n'a pas peur, par exemple. Ça, c'est plutôt une mauvaise idée.
On peut aller le voir, si on peut se croiser.
Quand ta bougie s'éteint, tu sais qu'il n'est pas loin de toi.
Ouais.
Tu peux essayer d'aller à sa rencontre, c'est possible. Et tu ne seras sans doute pas surpris d'apprendre qu'il y a plusieurs témoignages, forcément, sur Reddit, de gens qui...
Reddit.
Sur le No Sleep, qui est un excellent thread Reddit, où il y a des témoignages de personnes qui ont joué au jeu de minuit.
Ah.
Et je vais te lire des extraits de celui de Jake, qui a posté ce message il y a de cela déjà 3 ans. Et ça commence comme ça. Je ne crois pas spécialement au surnaturel. Il m'arrive parfois de tester des petites choses pour m'amuser, et jusqu'au week-end dernier, je n'avais absolument aucun respect pour ce genre de croyance.
Aucun respect. Le respect a disparu.
Zéro respect. Je suis tombé sur une creepypasta qui s'appelle le jeu de minuit. C'était complètement le genre de chose que j'avais envie d'essayer, et c'est ce qu'on a fait avec mon ami Ryan. Alors, je te passe un petit peu parce que ce témoignage est très long, ils y jouent, hein, ils mettent le sang sur le papier, ils sortent, ils tapent 22 fois la porte, ils re-rentrent. Sauf qu'ils sont un peu déçus parce qu'il se passe rien pendant une heure. Mais à minuit 58, leurs bougies s'éteignent brusquement. Et là, je te dis la suite du témoignage. Je l'ai vite rallumé en moins de 5 secondes. J'ai sorti un truc comme « putain, c'était moi une ». Ryan m'a regardé bizarrement, il m'a dit de répéter. Alors j'ai redit « putain, c'était moi une ». Il avait l'air encore plus effrayé. Il m'a dit « non, ça j'ai entendu, ce que je veux savoir, c'est ce que t'as murmuré après ». Et je vous jure que je n'ai absolument rien dit d'autre. Donc voilà, passé ce petit moment étrange, la soirée continue. Ils essayent d'échapper puisque leurs bougies s'éteignent de temps en temps. Et à 1h40, son ami Ryan panique. Il a l'impression d'être suivi, il commence à croire réellement à l'histoire de l'homme de minuit, parce que jusque-là, il s'y croyait pas vraiment, hein. Pour eux, c'était juste une creepypasta sur Internet. Alors, son ami Ryan lui dit qu'il veut tracer le cercle de sel au plus vite, comme ça, on en finit avec cette histoire, quoi. Mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, ils sont dans la cave, et qu'ils ont oublié le sel 2 étages plus haut dans la chambre.
Pas malin.
Non, pas très malin. Et Jack, qui n'a pas trop peur à ce stade, hein, puisqu'il est habitué aux histoires d'horreur, décide d'y aller. Et c'est la suite de son témoignage qui m'a un petit peu mis pas très bien. À l'instant où j'attrape un paquet de sel, la chambre devient froide. De toutes les pièces de cette putain de maison, cette chambre est censée être la plus chaude. Mais là, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Je me sens observé. Je me retourne et là, je vois une silhouette debout sur le lit. Je peux vous jurer que sa tête a bougé, qu'elle me regardait. J'ai couru le plus vite que j'ai pu vers la cave et j'ai vite tracé le cercle. On a éteint nos bougies et on a prié pour que la créature ne nous trouve pas. Alors Jack assure ensuite que lui et Ryan sont restés blottis dans le cercle jusqu'à 3h40 du matin. Ils ont attendu 7 minutes de plus, ils avaient vraiment trop peur pour sortir.
C'est les 7 minutes de sécurité.
Et l'expérience les a complètement traumatisés. Jack dit qu'il a fait des cauchemars pendant plusieurs nuits après ça. Et il conseille fortement aux gens qui ont lu son histoire de ne jamais jouer au jeu de minuit.
Ah oui, bah oui.
Donc essayez si ça vous tente, mais pensez à Jack. Ouais.
Mais j'allais te dire, en effet, là, dans la maison dans laquelle je suis en ce moment, je le ferai pas. Très clairement, je le ferai pas. J'aurais beaucoup trop peur. Mais dans l'appartement parisien que j'avais il y a quelques temps, qui faisait 15 mètres carrés,
bah là, c'est compliqué de lui échapper.
C'est compliqué de lui échapper, ouais. Mais ceci dit, du coup, tu le vois forcément arriver, tu vois. C'est
alors, on devrait peut-être rajouter une règle au jeu de minuit à laquelle ils n'ont pas pensé. C'est ne jamais,
de mètres carrés.
Ne jamais jouer au jeu de minuit si vous habitez dans un studio.
Ou pas, d'ailleurs, parce que si tu traces ton cercle, bah, des fois, tu sais, tu traces ton cercle, enfin, tu te balades. Même, tu peux tracer un cercle qui fait littéralement la taille de ton appartement.
C'est vrai. Si t'habites dans une toute petite chambre de bonne parisienne,
bah ouais,
c'est illégal de 8 mètres carrés.
Ouais, voilà.
Bah, du coup, en fait, vous allez juste passer une petite soirée pyjama avec l'homme de minuit, c'est-à-dire que vous allez être dans votre cercle. Lui pourra pas rentrer dedans, mais il sera à 2 cm de vous. Et puis,
et tout se passera très bien.
Exactement. J'avais 2-3 infos d'ailleurs sur l'homme de minuit, parce que ça a pas mal marché. Enfin, c'est une histoire qui était quand même pas mal répandue sur le net. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a un mec sur Reddit qui a eu une super idée. Il a dit, vous invoquez l'homme de minuit, et ensuite vous allez directement vous courir dans la salle de bain pour invoquer Bloody Mary le même soir. Bah, et vous voyez qui gagne entre les deux.
Pas mal.
Tu croises fortement les doigts pour pas mourir au passage. Pour que ça tourne pas en qui sait qui va te tuer le premier.
Et en fait, oui, c'est parce que si les deux te prennent pour une proie, là t'as 2 fois plus de chances d'y passer.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs une petite anecdote ciné que j'ai vue du coup en cherchant des infos sur le Midnight Man. Y a un film qui est inspiré de cette creepypasta qui est sorti en 2013 en Irlande. Ça s'appelle The Midnight Man. Et il a eu droit à un remake américain qui va sortir bientôt, avec 2 guests de qualité à l'intérieur, Robert Englund, qui joue Freddy.
Ouh, ben oui, évidemment.
Et Lynn Fay, qui joue Elise dans Insidious.
Ouais.
Alors, ce sera sûrement de l'ordre du caméo pour vendre le film, hein, parce que c'est encore un délire de jeunes qui font des conneries avec les esprits, donc ils jouent au jeu de minuit et qui se font tous trucider.
Tous les mauvais films d'horreur ces derniers temps sont des remakes de Ouija.
Oui, non, mais voilà, on est un petit peu dans ce délire-là, avec des acteurs inconnus et tout, mais je vais quand même le regarder par curiosité. Après, c'est réalisé par le réalisateur de Cabin Fever, mais pas l'original, le remake.
Ah, ok, d'accord.
Donc, une personne habituée des remakes, visiblement. Donc voilà, je sais pas comment ça sort exactement, mais la bande-annonce est dispo sur YouTube, elle tourne partout, donc si vous voulez aller regarder la bande-annonce de Midnight Man, c'est possible.
Je vais maintenant vous parler d'un thème récurrent, d'un objet récurrent dans les films d'horreur et dans l'horreur en général, c'est l'épouvantail. Épouvantail qui a donné lieu à plusieurs films, hein, Mathias. Jeepers Creepers, ça dit quelque chose.
Oh oui, ça me parle.
On les avait vus ensemble, ceux-là.
Avec
hein.
du bon et du moins bon.
Ouais. Et de l'épouvantail, surtout. Et cette petite creepypasta, ce soir, raconte l'histoire d'un vieux monsieur propriétaire d'une ferme. Et pas n'importe quelle ferme, puisque sa ferme était connue pour produire les meilleurs légumes de la région, voire du pays, suivant à qui on le demandait. Tous les grands restaurateurs du coin venaient s'approvisionner chez ce vieux monsieur, ce vieux fermier. Et selon lui, si on l'écoutait, si on parlait avec lui, tout son succès, il le devait à son épouvantail. Pour lui, c'était la garantie que, à la fois aucun corbeau, mais aussi aucun humain, et même aucun insecte, ne vienne s'aventurer sur son champ, parce que son épouvantail était tellement flippant qu'aucune forme de vie n'osait s'aventurer sur son champ. Et l'épouvantail, en effet, était vraiment effrayant. Il avait des membres en paille très longs, légèrement remontés, courbés. Ses bras mesuraient chacun 2 mètres. Il avait des jambes aussi très longues, bizarrement agencées. Une tête un peu baissée, rivée, le dos un peu courbé, rivé vers le sol. Et donc si on lui posait la question, il répondait qu'il avait mis beaucoup de temps à confectionner son épouvantail. Il a mis des mois entiers à le confectionner, cet épouvantail. Il disait surtout la tête, qui, disait-il, avait sculpté lui-même, et qui ressemblait à une grosse citrouille d'Halloween, mais avec un sourire figé et malsain, et des yeux perçants. Donc le fermier était plutôt content de ce résultat, qui pourtant était vraiment hideux et repoussant, hein, mais qui fonctionnait plutôt pas mal, quand il s'agissait d'éloigner à la fois les animaux et même les intrus, et ce qui lui permettait de proposer les meilleurs légumes. Ce fermier avait 2 voisins. 2 voisins qui vivaient dans la même maison, puisqu'il s'agissait de 2 frères qui tenaient la ferme voisine. Les 2 frères n'étaient pas particulièrement malins, ils étaient un peu fainéants, leur business était en train de s'écrouler, et s'ils étaient en faillite, c'était en partie à cause de la réussite du vieux fermier et de son épouvantail. Les 2 frères, fainéants mais jaloux, commençaient du coup à comploter contre lui. Et leur plan était assez simple, hein. Ils ont décidé de voler l'épouvantail. Ils se sont dit, s'il a plus son épouvantail, il va à nouveau avoir des bêtes sur son champ, donc il y aura des problèmes de production, donc ça nous avantagera. Le lendemain, le fermier est effondré, puisque les deux frères ont mis leur plan à exécution, et l'épouvantail a disparu. Assis sur leur perron, sur leur petite chaise à bascule, avec l'épi de blé dans la bouche, les 2 frères rigolent. Ils rigolent bien. Ils voient le fermier qui est en pleurs, et eux se moquent de lui. Seulement voilà, le soir venu, les 2 frères, qui font chambre commune, entendent un bruit. Ils descendent voir l'épouvantail, en se demandant si le bruit ne venait pas de la même pièce, mais l'épouvantail était immobile. L'un des 2 n'est pas rassuré, et il demande à l'autre s'il ne peut pas détruire la tête quand même, parce que cette tête en forme de citrouille est vraiment effrayante. Alors le grand frère, le plus grand des 2, s'exécute, il va prendre la masse, il donne quelques bons coups dans la tête, il éclate la tête de l'épouvantail en 1000 morceaux, il y en a partout dans la pièce. Ils se sentent relativement rassurés, ils retournent se coucher. Seulement la même nuit,
Quelques heures plus tard, ils entendent un bruit à leur porte, un bruit de grattement. Et donc l'un des deux se réveille en sursaut et dit à l'autre « Mais on a pas de chien, on a rien, qu'est-ce qui peut faire ce bruit-là » Alors l'autre dit « Bah, je sais pas. » Et là, la porte commence à s'ouvrir lentement et un immense bras en paille, un des grands bras en paille de 2 mètres de l'épouvantail, passe par la porte et commence à s'approcher de leur lit. Alors ils sont complètement en panique, les deux frères sortent de leur lit, il y en a un qui passe par la fenêtre, mais l'autre ne peut pas s'échapper. Celui qui est passé par la fenêtre hurle le nom de son frère, il attend dehors, il attend pour savoir si son frère va pas sortir, il attend plusieurs minutes mais rien. Quand soudain, par la porte d'entrée, il voit l'épouvantail qui commence à sortir et qui sort lentement parce qu'évidemment il est immense alors pour passer par la petite porte. Alors là, le frère le plus grand des deux frères est pris de panique. Et il commence à courir, il traverse son champ, il traverse le champ de son voisin, le vieux fermier, et là sur le perron de la maison du vieux fermier, il voit le fermier. Sauf que au lieu d'être inquiété, au lieu d'être apeuré ou quoi que ce soit, le vieux fermier, il le regarde en souriant. Il n'arrête pas de le fixer du regard. Et là, il hésite. Le frère, il ne sait pas s'il doit aller lui parler, mais il voit l'épouvantail qui commence à courir derrière lui. Il dit, bon, non, il faut que je continue. Et il commence à courir. Et le problème, c'est que les immenses jambes de l'épouvantail le rattrapent assez rapidement. Alors il va dans la forêt, puis il court. Il entend l'épouvantail derrière lui, il entend les bruits de pas, et il continue à courir. Jusqu'au moment où il est complètement épuisé, son rythme commence à se ralentir. Et là, l'épouvantail le prend par les épaules, le retourne, le soulève. Qu'est-ce qu'il voit au moment où l'épouvantail le retourne et il le regarde à nouveau dans les yeux? La tête de son frère.
Elle est super, je l'avais jamais entendue.
Ah, t'aimes bien?
Ouais.
Moi, c'était celle qui me... C'était celle dont j'avais le plus peur, je dois avouer. Parce que je trouvais la chute pas... pas ouf, tu vois.
Ah si, oh bah, c'est normal, attends, ce pauvre épouvantail, on lui a éclaté sa tête, il faut bien qu'il ait une tête en remplacement.
Qui récupère une nouvelle tête. Non mais c'est bien, j'aime bien, moi j'ai le petit passage où le fermier, en fait, c'est ce qui se passe.
Fermier,
tu vois.
Ouais, est au courant. Il y a un truc un peu c'est surprenant, cette histoire, deux frères d'âge... Ouais.
Oui, qui dorment dans la même chambre. Et je me suis dit pareil.
Pourquoi?
Bon, pourquoi pas, hein. Ils sont fermiers, ils ont le même business, il n'y avait qu'une chambre dans la ferme qu'ils ont achetée, je sais pas.
Petite ferme alors.
Petite ferme, ouais. Et tu sais ce qu'on dit, hein, à la ferme ta gueule.
Moi je pensais que si jamais ils veulent faire l'amour dans le pré, c'est compliqué s'il n'y a qu'une chambre.
Ah oui, je pense que bah déjà, non, ça serait compliqué.
Enfin du coup maintenant qu'il a plus de frères, enfin...
Ouais, mais maintenant, je pense qu'il n'y en a plus aucun des deux.
Oui, c'est possible.
Je pense que... Mais il y a une morale, économique à cette histoire.
Non, mais ne volez pas les épouvantails des gens.
De ne pas voler et puis de ne pas faire du tort à son concurrent parce que l'on est fainéant, tu vois. Mm. Et c'est l'idéologie capitaliste qui reprend le dessus. Et c'est une morale capitaliste, je pense.
Bah écoute, merci pour cette histoire. Elle était très bien.
De rien.
Après avoir écouté toutes ces histoires qui font peur, je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher, mon cher Charles.
Oui, enfin, vous pouvez aller vous coucher si vous y arrivez. Moi, je pense que je vais avoir un petit peu de mal. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Vous l'aviez demandé, on l'a fait. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous voulez, d'autres épisodes comme celui-ci.
En tout cas, nous, on revient très bientôt avec un nouvel épisode, avec de vrais mystères cette fois, hein, plus de creepypasta, plus d'histoires qui font simplement peur. Là, on va repartir sur des mystères plus ou moins avérés, enfin, vous savez, comme d'habitude. Et si vous voulez avoir les sources voilà, de ce qu'on vous a raconté cette fois-ci et de ce qu'on raconte la plupart du temps dans le Bureau des Mystères, vous pouvez aller sur rivieraferraille.com, toutes les sources y sont.
Car le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille, et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur notre Twitter, @BDMlepodcast, ou sur nos Twitter respectifs. Hein. Pour toi, c'est @MathiasAlcaraz, pour moi, c'est @AudeParamonia. Voilà, j'ai choisi le pseudo, je joue le jeu du pseudo. Ou sur la page Facebook de notre autre podcast, inspiré de faits réels.
Et d'ici là, avant un nouvel épisode, priez pour que l'homme de minuit ne vous attrape pas.